Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Le Triduum Pascal 2021 arrive à grands pas et l'on peut avoir l'impression de ne pas avoir vraiment commencé à entendre la parole décapante et consolante que Dieu a à nous adresser. Difficile tâche, même pour le croyant que d'entendre cette parole un peu comme l'histoire d'un vieux couple dans lequel l'on est plus émerveillé, renversé de rencontrer ce tout autre. Pour nous aider à nous réveiller, cette dernière émission de notre série de carême, avec en invité d'honneur des personnes dites en situation de précarité, des personnes qui, parce qu'elles vivent une vie radicalement différente de la nôtre, voient la vie autrement et entendent Dieu avec d'autres oreilles, peut-être plus débouchées. Les pauvres, nos guides vers Dieu, c'est donc le thème de cette émission Vivante Église, troisième de notre courte série de carême. Autour du plateau, Gali, vous étiez là il y a, je crois, 2 semaines, c'est ça, hein, et vous êtes à nouveau avec nous. Vous êtes membre de la commission diocésaine Place et Parole des Pauvres. Bonjour.
Bonjour.
Marie-Ange, vous êtes membre de cette même commission. Bonjour.
Bonjour.
Sébastien Combre, toujours responsable de la diaconie pour le diocèse de Toulouse. Bonjour.
Bonjour Emmanuel.
Est avec nous aussi Frédéric-Marie Leméoté, vous êtes franciscain et théologien. Bonjour.
Bonjour.
Et Jean Barba, vous êtes prêtre et aumônier du Secours catholique Ariège-Haute-Garonne et du CCFD Terre solidaire 31. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir tous fait le détour. On va réexpliquer pour ceux qui par hasard nous prendraient, on va dire, en cours le sens de cette série d'émissions. Voilà, chaque carême, on se creuse la tête pour essayer de trouver des grands témoins. C'est souvent notre choix. On va chercher dans notre région des figures spirituelles qui nous aident à rentrer plus profondément dans notre relation à Dieu, voire même de découvrir cette relation à Dieu. Et cette année, originalité, on s'est dit que c'est les êtes vous, Gali, Marie-Ange, Eric et autres qui est devenu en plateau. Sébastien Combre, cette idée, on l'a eue ensemble. Pouvez-vous nous rappeler pourquoi, à votre avis, les plus pauvres d'entre nous, on va dire les personnes en situation de précarité, ce sont parfois des maîtres spirituels qui s'ignorent?
Parce que, comme vous le disiez dans votre introduction, ils ont quelque chose de différent. Enfin, c'est un peu comme quand on va à l'étranger et qu'on parle de Jésus avec une autre culture. Ça décape parce que ça nous montre le visage du Christ différent. Et c'est pareil avec les gens qui vivent une vie différente de la nôtre. Seulement, si on veut avoir une vision complète, finalement, il faut oublier personne. Et pour être sûr d'oublier personne, on va commencer par ceux qui sont toujours oubliés. Comme ça, on pourra avoir un visage du Christ complet. Il y a Étienne Grieux qui disait « Si un seul manque, le Christ est défiguré ». Il faisait allusion au Christ aux 1000 visages. Je ne sais pas si vous avez ces plein de petits visages qui forment le Christ. Quand on le voit de loin, on voit le Christ. Quand on s'approche, on voit que c'est plein de petits visages. Et en fait, s'il en manque un, s'il en manque deux, s'il en manque trois, le Christ est défiguré. Et s'il manque la parole des pauvres, il va manquer quelque chose au Christ.
On va essayer d'en faire la preuve par l'exemple. Alors, je ne veux pas vous mettre la pression, Marie-Ange et Gali, hein. On va vous aider de toute façon, puisque donc vous avez pris le temps de partager. Il y a 2 semaines, c'était donc sur le jeûne. La semaine dernière, c'était sur la prière. Aujourd'hui, c'est sur le monde, pas de surprise. C'est les 3 piliers du carême. Jusque-là, on fait du classique. À chaque fois, vous avez choisi un peu un angle, ou en tout cas un texte. Là, c'est donc Saint-Luc, chapitre 11, versets 5 à 13. C'est l'histoire de cet ami qui vient taper à la porte la nuit. Et c'est une histoire que Jésus raconte lui-même dans les évangiles. Cet homme donc va toquer à la porte de son voisin parce qu'il a un ami qui vient d'arriver chez lui, qui était en voyage, et il n'a rien à lui servir. Le voisin a du mal à se lever, il râle, je résume hein, avec mes mots, et Jésus fait cette conclusion. « Je vous le dis, même s'il ne se lève pas pour les lui donner en qualité d'ami, il se lèvera du moins à cause de son impudence et lui donnera tout ce dont il a besoin. » Alors vous êtes penché là-dessus et vous avez commencé par vous dire, si j'ai bien compris, on va commencer avec vous Marie-Ange, que c'est, dans le fond c'est pas si facile que ça. Quelqu'un qui vient frapper à la porte la nuit, il y en a un de vous qui disait « Moi, à minuit, je n'ouvre pas, je laisse la porte fermée. » Est-ce que j'ai bien compris?
Oui, je rejoins tout à fait cet avis. Ce genre d'aide ne me convient pas non plus. Voilà. Personnellement, il ne faut pas me déranger. Mais j'ai d'autres idées, notamment de...
Alors on y viendra peut-être sur la prière, c'est ça? Vous vouliez parler de ça?
de l'ordre de la prière et de la pensée bienveillante.
Alors on y reviendra, là on va rester aux difficultés. Il y en a un autre qui dit « Je connais des gens de ma famille, vous frappez, ils ne vous ouvriront même pas. » Cette même personne dit « Moi je connais quelqu'un qui va voir sa mère s'il arrive un peu tard le soir, sa mère ne lui ouvre carrément pas. » Bref, on entend que c'est pas chose facile. Gali, vous aviez un exemple tiré de votre expérience. Donc vous êtes d'origine algérienne et vous, ça vous est arrivé en chair et en os cette histoire. Il vous est arrivé une fois, c'est ça, d'aller chez un ami la nuit et qui est allé toquer à la porte de son voisin parce qu'il avait plus de quoi justement vous nourrir, c'est ça?
C'était quand je suis venu d'Algérie. Oui, c'était bon. Oui, c'est vrai que c'est.
Racontez-nous l'histoire.
Quand je suis arrivé, il était un peu, il voulait pas me laisser sans. Je suis venu par bateau le soir tard, et donc la voiture, on est rentré à Mostaganem, et donc il m'a dit bon, attends, je vais voir quelqu'un. C'est l'hospitalité, quoi.
Donc il allait toquer chez son voisin.
Oui, c'était un ami qui connaissait très bien. C'est un ami qui connaissait très bien, donc il le dérangeait pas du tout parce que je pense que l'autre, quand il avait besoin de lui, il réciproquement, il pouvait lui rendre le service, quoi.
Donc il a ouvert la porte à son ami,
tout
c'est
à
ça
fait, il lui a ouvert la porte.
Et il lui a donné
du thé, des gâteaux. Enfin, il a dit oh, y a pas de souci, ça fait plaisir qu'il vienne. Bon, quand même, hein. Si moi j'y vais là-bas en France, ils me recevront bien, quoi. Donc ça fait chaud au cœur quand même.
Et alors vous vous êtes dit dans le temps de partage que c'était pas sûr en fait, s'ils venaient en France, c'était pas sûr qu'on leur accueille de la même manière.
Non, en France, je peux vous dire que si vous allez, c'est comme elle a dit Marie-Ange, c'est vrai quoi, si vous allez chez n'importe qui, à cette heure-ci, personne ne va vous ouvrir. C'est clair. Bon, parce qu'on est ici, bon, c'est pas si les mœurs sont différents. Bon, mais là-bas, c'est l'hospitalité. Je parle de l'époque, hein. J'étais beaucoup plus jeune. Maintenant...
Sébastien, est-ce que vous pouvez raconter l'histoire? Il y a aussi l'une d'entre des personnes présentes au temps de partage. Alors on peut dire que ce résumé en fait de ce partage donc, est disponible sur le site du diocèse de Toulouse dans la rubrique Diaconie pour ceux qui par hasard voudraient le suivre pied à pied ou en tout cas le lire après. Il y en a une qui raconte aussi qu'elle avait des gros problèmes familiaux et que la nuit elle partait de chez elle et elle allait toquer à la porte des voisins. Vous pouvez raconter peut-être cette histoire?
Oui, alors évidemment, c'est pas. Mais ce que je me souviens de ce qu'elle racontait, c'est que c'était à la fois grisant, une sorte de liberté, mais qu'à la fois, elle sentait bien qu'elle pouvait se mettre en danger, et que parfois c'était difficile, et qu'elle avait dormi dans des endroits où qui n'étaient pas forcément. Dehors, etc. Mais l'important, c'est de se rendre compte que finalement,
qu'on est très vulnérable quand on est obligé d'aller toquer à la porte la nuit, parfois. C'est...
Oui, voilà, on est vulnérable. Mais quelque part, c'est aussi une relation. C'est la relation qui compte. Et que finalement, ce qui est important, c'est la confiance. Qu'on peut se partager. La confiance, c'est quelque chose qui revient souvent quand on parle d'aumône et de. Parce que si elle est dans un sens, il y a quelque chose qui fonctionne pas bien. Il faut qu'il y ait une sorte de réciprocité. Je donne, mais je peux recevoir et je reçois et je peux donner parce qu'on est dans une relation où on se fait confiance mutuellement.
Alors là, donc la personne disait, je sortais beaucoup, c'était à cause de mon père, ça ne se passait pas très bien, je n'avais pas peur, même si après les gens appelaient la police, on m'emmenait, on me réchauffait, on me protégeait, j'étais quand même toujours protégé, dit cette personne. On peut aussi citer une autre personne qui dit qu'une fois comme ça, quelqu'un est venu frapper et sonner chez lui, elle a ouvert par curiosité, cette personne, le voisin lui a dit, bonsoir, je suis votre voisin, auriez-vous du lait? Je lui ai donné une bouteille de lait, et depuis on se croise, on se salue, on se connaît même très bien, on est très amis, on se rend des services. Il y a aussi quelque chose de fort qui est ressorti dans ces partages, c'est la question de l'humanité, on va dire. On a l'impression que c'est presque une question d'être humain ou animal que d'entendre cette invitation de la parole de l'Évangile. Moi, j'estime que quelqu'un qui vient frapper à la porte et vous demande du pain, si on est humain, on doit lui donner du pain. Et peu importe, Gali, qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, moi je pense que si on est humain, on doit lui ouvrir la porte et lui donner quelque chose à manger. On ne peut pas le laisser sans rien. Et tant pis l'heure.
C'est pas si facile que ça.
C'est pas si facile que ça, mais il faut le prendre pour soi. Et des fois, on peut être aussi à la place de l'autre. On ne sait jamais.
Alors, ça fait beaucoup de gens qui se comportent comme des animaux, alors, en français.
Non, 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 ils ne se comportent pas comme des animaux. Non, 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 c'est un pays civilisé, non, non. Non, non, pas du tout. Non, pas du tout. J'ai jamais dit ça, non, non. En France, les gens sont très bien, c'est vraiment, c'est un pays super. Il y a quand même des restos partout qui donnent des aides, tout ça. Non, non, s'il ouvre pas, parce que peut-être que la personne est un peu fatiguée, il travaille, il est un peu... faut le comprendre, hein, je veux dire, par là... l'être humain, ça, c'est pas une question de race ou d'identité. L'être humain, il est ce qu'il est, hein, vous savez. J'ai dit, par exemple, il y a un copain à moi, quand il va voir sa mère, des fois, c'est maghrébin, quand il arrive tard, le soir, il tape chez sa mère ne l'ouvre pas. Parce qu'elle dit, ah, certaines heures que tu dépasses, tu n'ouvres pas. Et il ne l'ouvre pas, il est obligé de rebrousser le chemin, vous voyez. Donc,
Alors, tout à l'heure, Marion, je vous avais dit que pour vous, c'était pas si facile que ça. Et puis, il y a quelqu'un d'autre qui a dit qu'en même temps, il fallait se mettre un peu à la place de l'autre, si j'ai bien compris. Il a besoin de moi, enlève ta... Il y en a un qui se disait, dans ces cas-là, il faut se dire, il a besoin de moi, enlève ta flemme et rends service. Donc, il faut aussi quoi, savoir se secouer pour partager et faire l'aumône.
Oui, ce n'est pas... évident, c'est aussi une forme d'éducation et heureusement qu'il y a beaucoup d'associations et de personnes qui donnent sans peine. Enfin, pour eux, ça a l'air facile pour eux, je pense à l'Ordre de Malte, au Resto du Cœur, à l'Espace Social du Grand Ramier par exemple, enfin, à toutes ces associations de dons, mais de dons alimentaires, de dons de vêtements.
Alors, vous aviez un autre exemple. Vous vous disiez qu'on pouvait donner, on pouvait être riche de d'autres choses, et vous vouliez prendre l'exemple des pensées et de la prière. Expliquez-nous votre exemple.
Quand on ne peut pas donner que de l'argent, ou du moins quand on n'a pas des moyens financiers très élevés, je pense que c'est à la portée de tout un chacun, même sans prier, d'avoir une pensée pour les autres. La pensée peut être plus ou moins bienveillante, parce que beaucoup de personnes sont énervées si on leur demande de l'aide. Quelquefois, ça peut arriver. Donc, réfléchir et se dire que la pensée, c'est toujours possible de la transformer. Et c'est une forme de don et d'aumône, et d'entraide et de solidarité.
Y compris de penser ou de prier pour ceux qui nous dirigent, vous disiez, c'est ça ?
Oui, alors...
pour ceux qui, a priori, parfois, on a l'impression qu'ils ne veulent pas toujours du bien, c'est ça ?
Oui, alors voilà, quand on a l'impression qu'une... ou quand une personne est carrément ouvertement hostile, pas forcément violente physiquement, mais il existe la violence financière, la violence verbale. Dans ces cas-là, c'est une grande force de pouvoir pardonner et prier, tout au moins avoir des pensées bienveillantes, souhaiter le meilleur pour ceux qui nous gouvernent, envers les forces de l'ordre, envers ses ennemis, entre guillemets. Enfin,
et vous dites que c'est même une richesse, c'est ça ?
C'est une richesse.
C'est quelque chose qu'on a à partager, en fait.
C'est une richesse de l'âme, de l'esprit, et l'humanité en est enrichie.
Ce qu'on lit à travers en fait ces différents exemples, je ne sais pas si quelqu'un veut prendre la parole ou si Sébastien vous pouvez y faire écho. Il y a une phrase aussi très forte que j'ai relevée, c'est que il y a quelque chose de à la fois d'humanisant quand justement on ouvre la porte, quitte à l'ouvrir la nuit, mais de déshumanisant en fait quand on a rien à donner, quand on peut plus rendre service. J'ai noté cette phrase, Sébastien.
Oui, alors là, c'est typiquement, je vais reprendre ce que dit Marie-Ange et ce que j'ai dit tout à l'heure. Si on voulait avoir un visage d'église complet, il fallait commencer par les plus pauvres comme signe qu'on n'oublie personne. Et Marie-Ange, elle dit, nous, on va prier pour ceux qui sont les dirigeants, ceux qui sont victimes de ceux qui sont responsables quelque part, etc. Et en fait, là, la boucle, elle est bouclée. Et finalement, on est dans une relation où on donne, on reçoit, et où on est tous ensemble.
Parce que donc, la plus grande pauvreté, c'est de ne pas pouvoir rendre service, donc de ne pas pouvoir faire l'aumône, c'est ça parfois ?
Ah oui, oui, ça c'est clair, c'est quelque chose qui revient très très régulièrement.
Expliquez-le-nous alors.
En fait, personne n'est suffisamment pauvre pour n'avoir rien à donner. C'était la conclusion de Diaconia 2013.
Diaconia 2013, c'est donc, pour rappel, un grand rassemblement de toute l'Église de France à Lourdes pour essayer de justement mettre les plus pauvres au cœur de l'Église.
Oui, en 2013, voilà, exactement. Et en fait, on s'était rendu compte que finalement, lors de ce rassemblement où il y avait un tiers de personnes qui vivaient la galère, ils avaient énormément donné et que s'ils n'avaient pas été là, le rassemblement aurait été différent et aujourd'hui, l'Église de France serait différente. Donc en fait, les plus pauvres, ils ont quelque chose à donner, quelque chose de fondamental. On parlait de l'aumône, je veux dire qu'on parle du pardon ou de la prière, mais qui peut plus parler de l'aumône que celui qui en a besoin, qui peut plus parler de pardon que celui qui doit pardonner parce que on lui a fait le plus de misère. Enfin, donc les plus pauvres sont nos maîtres dans ce sens-là parce qu'ils ont quelque chose de fondamentalement profond. Ça ne veut pas dire que c'est différent, mais ça s'ancre dans une patte humaine qui est la nôtre. Et finalement, ils vont puiser un peu plus profondément dans cette patte humaine et ils nous révèlent quelque chose de nous-mêmes.
Il y a un autre exemple, je vais le donner à votre place. Pour finir, avant qu'on fasse une première pause, il y en a un de vous aussi qui a expliqué une fois que son père lui avait, alors qu'il devait certainement avoir un certain âge, lui interdit de prendre le volant. Ça peut paraître anecdotique, mais il en a été profondément blessé. Et ce qu'on pouvait lire à travers ce témoignage, c'est qu'en fait, quand on ne vous fait pas confiance aussi, et ben, on se sent déconsidéré, voire moins que rien. Et du coup, on a l'impression qu'on est tellement pauvre qu'on n'a rien à donner. On va faire une première pause et puis on va vous retrouver pour continuer à parler de l'aumône et essayer de mettre en perspective ce qui a été dit à l'instant.
Présence. Vivante Église, Emmanuel Pella.
Les pauvres nos guides vers Dieu, troisième émission donc de cette série de carême autour du plateau. Galie et Marie-Ange, qui sont membres de la commission diocésaine Place et Parole des Pauvres, pour le diocèse de Toulouse, mais représentatif probablement de ce qui se vit dans d'autres diocèses, hein, puisqu'on écoutait dans une bonne partie de la région Occitanie, Sébastien Combe, responsable de la diaconie pour ce même diocèse, Frédéric-Marie Leméoté, franciscain et théologien, et Jean Barba, prêtre et aumônier du Secours catholique Ariège-Haute-Garonne et du CCFD Terres Solidaires Haute-Garonne, mais sa parole porte évidemment pour aussi d'autres délégations de ces deux grandes associations. Alors avec vous, Frédéric-Marie Leméoté, comme à chaque fois, on va essayer de faire une relecture un peu de ce qu'on a entendu, de ce qu'on peut trouver donc dans ce partage autour du thème de l'aumône, selon l'évangile, commentaire de l'évangile selon Saint Luc, chapitre 11, verset 5 à 13. Commençons par ça, quelle est la chose qui vous a le plus frappé, Frédéric-Marie Leméoté, en écoutant ce qu'ont partagé Galie et Marie-Ange et ce que vous avez lu de ce temps de partage?
Ce qui m'a le plus frappé, c'est que quand il parle de l'aumône, les personnes de ce groupe Place et Parole des Pauvres ne la définissent pas comme un don d'argent, mais d'abord, c'est-à-dire sur le mode donner-recevoir, même s'ils en parlent, mais d'abord sur le mode ouvrir et fermer. Ouvrir et fermer la porte, accueil ou non-accueil. On a entendu Galie qui parlait d'hospitalité. Voilà, l'aumône dont il est question ici, elle concerne moins les objets que les relations elles-mêmes. Il y a une personne qui dit, par exemple, dans le texte, les objets, si on a de l'argent, on peut acheter, mais l'objet, il n'y a pas d'échange, on ne partage rien avec ça. Et puis vous citiez la phrase, Emmanuel, de « Je lui ai donné une bouteille de lait, et maintenant, chaque fois qu'on se voit, on se salue ». C'est-à-dire que le vrai fruit de l'aumône, le vrai but de l'aumône, le but le plus vrai, ça n'est pas l'objet, ça n'est pas la nourriture, la boisson, même si ça reste important, mais c'est d'abord la relation.
Alors,
et la finalité de la relation, bah, c'est une relation qui renaît, qui se retisse. On a entendu Marie-Ange qui disait que la grande force, c'est de pouvoir pardonner. Voilà, on est exactement sur ce thème-là, c'est-à-dire de l'aumône. C'est cette force qui nous permet d'à nouveau être en relation avec l'autre.
Alors vous voulez aussi insister sur le fait que quand on les écoute, on voit le monde vu d'en bas, c'est-à-dire...
Alors tout à fait. Le c'est effectivement un point auquel il faut être attentif dans ce texte. On a affaire à un texte qui est écrit par des personnes qui n'ont pas notre expérience. Je prends l'exemple de cette femme qui va toquer à la porte alors que son père l'a chassée, je crois. Et voilà, cette expérience. Moi, je n'ai pas cette expérience de taper à la porte pour avoir de la nourriture ou avoir un accueil. Je n'ai pas cette expérience. Et quand j'ai lu le texte, je me suis dit, ben moi, je suis du côté de celui qui ouvre la porte. Et à ce moment-là, ces deux positions, on pourrait dire ces deux points de vie, mais moi j'aime bien ces deux points de vue, justement, moi j'aime bien l'expression ces deux points de vie. C'est-à-dire, c'est pas simplement une vision différente de la réalité, mais c'est une expérience différente. Ça provoque des déplacements. Et là encore, vous l'avez cité, cette femme qui dit « ça s'est bien passé au commissariat, on m'emmenait, on me réchauffait, on me protégeait, j'étais quand même protégé ».
Est-ce que vous pouvez prendre l'exemple aussi de cette autre, on l'a pas cité, de cette autre personne qui dit qu'avoir un enfant en bonne santé, c'est déjà un miracle?
Voilà, c'est un autre exemple. Une personne dit « quand on a eu un enfant en bonne santé, on n'a pas à demander de miracle, on a déjà eu le miracle ». C'est-à-dire que alors que, je dirais moi, parce que ou nous qui n'avons pas cette expérience, on pourrait dire bah, un enfant en bonne santé, c'est de l'ordre de la normalité, c'est presque de l'ordre du droit. Hein. On a le droit à un enfant normal. La personne ici nous invite à un émerveillement et à nous dire mais non, ce qui est anormal d'une certaine manière et ce qui est le miracle, c'est que eh bien on a un enfant en bonne santé. Et du coup, c'est toute la vie qui devient miracle, c'est toute la vie qui devient don. Je crois qu'il y a quelque chose de très profond dans ce regard sur la vie qui se reçoit comme un don. Alors, une fois que j'ai dit ça, je voudrais tout de suite ajouter, n'allons pas trop vite non plus. C'est-à-dire, le monde de la pauvreté, c'est génial, on est protégé. Non.
Non, on a compris, hein, ça, rassurez-vous, voilà, je pense que personne ne se fait d'illusions. Et si vous deviez faire un rapport avec les Écritures, ça vous fait penser à un passage d'évangile ou autre?
Là, je penserai à l'aveugle Bartimée. Mmh. Il est aveugle sur le chemin, il est assis, il voit passer une foule. Mmh. On peut imaginer un homme assis au bord de la route, qu'est-ce qu'il voit de la foule? Bah, finalement, il voit pas les visages, il voit des jambes qui passent, il voit la foule depuis le bas. Et pourtant, c'est le seul qui se met à crier vers Jésus, « Jésus, fils de David, prends pitié de moi. »
Et quel est le rapport alors avec ce dont on est en train de parler?
Eh bien, on est en train de parler de ce monde vu d'en bas, de ce monde dont on, a priori, on ne pourrait voir que les jambes et pas les visages. Et c'est Bartimée, la seule personne à qui Jésus dit « Va, ta foi t'a sauvé ». C'est-à-dire que celui qui semblait le plus éloigné de Jésus, moins en capacité de le voir, eh bien, c'est celui-là à qui Jésus dit en premier qu'il est sauvé.
Alors, autre chose, vous avez commencé à en parler au début, vous vouliez vous arrêter sur ce point, c'est donc, on va dire, la manière de voir l'aumône. Ce que vous avez entendu dans le texte, hein, je le redis, donc c'est cette attitude fondamentale qui n'est pas forcément de se demander « est-ce que je donne ?» mais « est-ce que je suis ouvert à l'autre et prêt à le recevoir ?» C'est bien ça, hein?
C'est ça, exactement. C'était le point qui m'avait le plus frappé, c'est pour ça que... voilà, la vraie finalité de l'aumône, c'est la relation qui se retisse et qui renaît. Là, on pourrait presque dire que le pardon, qui est si important pour les personnes, pour les familles du Quart Monde, que le pardon, c'est le sommet de l'aumône, d'une certaine façon. Parce que c'est ce qui nous permet de vivre, c'est ce qui nous permet de vivre en relation avec d'autres et d'être intégré dans une communauté.
Oui, pourquoi vous dites spécialement pour les personnes du Quart Monde? Parce que c'est quelque chose qu'on a évoqué déjà lors des précédentes émissions, mais vous les fréquentez un peu au long cours.
Oui, pourquoi? le père Joseph Rezinski,
fondateur d'Atelier Quart Monde,
exactement, disait que le pardon, c'est une manière de vivre en Quart Monde. Moi, je dirais aussi que c'est une manière de croire. C'est-à-dire, qu'est-ce que voient les personnes quand ils voient Jésus? Ils ne voient pas seulement un homme qui meurt en croix, il voit pas seulement un Dieu qui meurt en croix, il voit un homme qui pardonne, même au bon larron à côté de lui. Et c'est ce pardon que les personnes contemplent dans la passion de Jésus. Il a pardonné jusqu'au bout.
À propos donc de l'aumône, qui n'est pas donc une question d'argent, c'est pareil, si vous deviez faire entre argent, objet, gratuité, relation, vous deviez faire un parallèle avec les Écritures, quel serait-il ?
Le texte auquel j'ai pensé, c'est un texte d'Isaïe au chapitre 55. « Vous tous qui avez soif, venez, voici de l'eau. Même si vous n'avez pas d'argent, venez acheter et consommer, venez acheter du vin, du lait sans argent et sans rien payer. » C'est le gratuitement, on le retrouve aussi dans le livre de l'Apocalypse. Je trouve ça très intéressant. Vous parliez en introduction de nos oreilles débouchées, de nous déboucher les oreilles avec la parole des pauvres. Il y a un vrai renversement dans la parole des pauvres, une vraie subversion. Vous tous qui avez soif, venez acheter gratuitement. On peut se dire, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, c'est nos échelles de valeur qui, tout à coup, nos échelles de prix, voilà ce qui a du prix à nos yeux, nos échelles de prix qui se trouvent renversées. Et pour moi, ça fait évidemment écho à la sagesse de la croix, nous dit saint Paul, qui est folie aux yeux des hommes. C'est-à-dire, est-ce que nous prenons notre sagesse dans le fait d'avoir une valeur? J'entendais aux informations que l'ONU cherche aujourd'hui à donner une valeur à l'eau. Qu'est-ce que c'est que ça me semble absurde. Il y a une folie de la valeur, une folie qui devient sagesse de la croix, qui devient complètement renversement de nos valeurs humaines.
C'est vrai qu'acheter gratuitement, a priori, c'est plutôt antinomique. Il y a un dernier point sur lequel vous vouliez insister, c'est donc le fait que l'aumône nous humanise ou nous déshumanise. C'est ce qu'on a entendu, hein. Je peux reciter les passages. Moi, j'estime que quelqu'un qui vient frapper à la porte, qui vous demande du pain, si on est humain, on doit lui donner du pain, peu importe du lait ou du café. J'estime que quand on est humain, on doit donner, ouvrir la porte à la personne pour qu'il se sente bien dans son cœur, disait l'une des personnes qui a partagé autour de l'aumône. Vous vouliez insister sur ce point?
Oui, parce que plus profondément, l'aumône dans le texte ici, dans ce que nous disent les personnes, elle n'apparaît pas simplement comme un problème moral. Il faut être gentil avec les pauvres, donc il faut leur donner quelque chose. C'est pas le but de l'aumône. L'aumône, elle est plus profondément un aspect, c'est un mot compliqué, anthropologique. Ça veut dire que c'est la vérité de l'humanité, c'est la vérité qui est au cœur de l'homme, qui est concerné par ce geste de l'aumône.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire que, je cite une personne, si on est humain, on doit lui donner du pain, peu importe du lait ou du café. On n'est pas des animaux. C'est une phrase qu'on entend beaucoup dans la rue, on n'est pas des chiens. C'est-à-dire que accueillir, être hospitalier, c'est pas simplement une question d'être gentil avec les personnes, c'est une question de retoucher profondément à l'humanité, à la bonté que Dieu a placée en nous à l'origine.
Et à contrario, si on ne le vit pas, c'est ça ?
Exactement, si on ne le vit pas, d'une certaine manière, on rate notre humanité, on rate notre vie, on rate le fait d'être à l'image de Dieu. J'ai beaucoup aimé ce que disait Gali quand il a dit « se mettre à la place de l'autre ». C'est exactement ce que dit le pape François dans son encyclique Fratelli Tutti. Il dit « l'humanité sera sauvée par des personnes qui sauront se mettre à la place de l'autre et prendre sur eux la souffrance des autres pour découvrir leur propre humanité. »
Alors vous aviez... Pardon, allez-y, excusez-moi, comme je ne vous ai pas tout à fait en face de moi.
Pour comprendre ce qui fait vraiment de nous des êtres humains, des hommes et des femmes humains.
Alors vous aviez un exemple qui n'est pas tiré de ce texte, mais de votre compagnonnage avec les personnes dites en situation de précarité. Un exemple assez frappant, vous pouvez nous raconter cette histoire.
Je pensais à une famille du Nord, très précaire, qui vit dans un tout petit appartement. Ils sont 5 dans un tout petit appartement. Et en rentrant, la famille croise une personne qui dormait dans la rue. Et le père de famille me raconte ça en disant « j'ai fait monter cette personne et il est resté chez nous pendant plusieurs semaines. » Et il me disait « on ne pouvait pas le laisser dormir dans la rue, dehors, c'est pas humain. » Voilà, c'est ce premier mouvement de colère, d'indignation. On voit quelqu'un dans la rue, et non, c'est pas possible. Vous voyez ? D'abord, cette indignation et cette colère qui fait poser un acte qui peut sembler fou. Et là aussi, sagesse, folie, on est sur les mêmes aspects. Mais en même temps, qui dévoile une humanité parce que on prend soin de l'autre. Et je crois que les plus pauvres, alors là encore, il ne faut pas idéaliser, mais les plus pauvres qui ont tellement conscience qu'ils ont besoin du pardon, qu'ils ont besoin d'être aidés, qu'ils ont besoin de... sont les premiers qui sont capables de poser ces gestes-là.
Dernier aller-retour avec les Écritures, aussi surprenant que ça puisse paraître, vous vouliez parler du livre de la Genèse.
Oui, j'ai déjà fait allusion, mais nous sommes créés à l'image de Dieu. Et Dieu lui-même, c'est ce qu'on dit quand on professe que Dieu est Trinité. Là aussi, c'est un mot compliqué de la théologie. Mais qu'est-ce qu'on veut dire ? On veut dire que Dieu, il n'est pas tout seul. Dieu, il est relation entre le Père et le Fils et dans l'Esprit. Et cette image relationnelle, Dieu la dépose en nous. Et l'image de Dieu qui est en nous, c'est notre capacité d'être en relation, notre capacité d'aimer, notre capacité d'accepter d'être aimé aussi, notre capacité de pardonner, notre capacité d'accepter d'être pardonné. Voilà. L'humain parfait, c'est pas l'humain augmenté par la technologie, c'est pas l'humain, ultra connecté avec la 5G. Non, l'humain parfait, c'est l'humain pardonné et qui pardonne. L'humain qui se sait en relation, qui n'a pas peur de sa fragilité, qui n'a pas peur de la tendresse, qui n'a pas peur non plus de sa force pour refuser tout ce qui détruit la relation.
Merci pour cette belle méditation. Gali et Marie-Ange, ça va ? Vous faites oui de la tête là. Je sens que Gali, il boit du petit lait. On va faire une deuxième pause et puis on va vous retrouver. Peut-être que ça appelle d'autres commentaires. Et entre autres, Jean Barba, vous me direz à titre personnel et puis communautaire, puisque c'est un peu l'exercice à chaque fois, ce que ça peut changer au long cours, pas forcément de manière radicale, mais ce que ça peut commencer à dessiner dans la vie d'un homme ou d'une communauté chrétienne, d'un groupe, on peut élargir. Quand on essaye, comme on le fait là, de donner la place aux plus précaires d'entre nous.
Radio Présence à Tarascon-sur-Ariège, 100.2. Vivante Église, Emmanuel Pella.
Les pauvres nous guident vers Dieu, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin, troisième émission de notre série de carême, en route vers Pâques 2021 autour du plateau Galie et Marie-Ange, membres de la commission diocésaine Place et Parole des Pauvres, Sébastien Combre pour la diaconie, Frédéric Leméoté, franciscain et théologien, et Jean Barba, vous êtes donc prêtre et aumônier du Secours catholique et du CCFD Terre Solidaire, ici dans le coin. Alors, comme à chaque fois, on essaye modestement, hein, il ne s'agit pas de faire de vous forcément l'exemple parfait, mais de voir quand même ce que ça peut transformer au long cours que d'essayer de vivre ce qu'on essaye de proposer à l'occasion de cette émission. L'amitié avec les plus pauvres ne date pas d'hier, vous avez donc en partie pris l'habitude de les écouter. Qu'est-ce que vous pourriez nous partager là-dessus, à titre personnel, de quelques-unes des rencontres qui vous ont marqué, qui vous ont, on va dire, appris à les écouter un petit peu plus, Jean Barba?
Il y a eu effectivement, depuis l'origine de mon ministère sacerdotal, des rencontres permanentes avec les plus pauvres, comme pour tous mes confrères. Car au presbytère, ils arrivent régulièrement, ils sonnent à la porte et ils demandent une aide, généralement financière. C'est très compliqué parce que on n'est pas sûr de répondre honnêtement à leurs besoins.
Ça, c'est le quotidien de tous les prêtres, en fait, vous dites ?
C'est le quotidien de tous les prêtres en paroisse, ça me paraît évident. Quasi, pas tous les jours, mais plusieurs fois par semaine, on sonne à la porte pour demander une aide.
Alors il y en a une qui vous a un peu marqué aussi, c'était au début de votre ministère.
J'étais tout jeune prêtre, effectivement. C'était un soir vers 19h30, quelqu'un vient, j'étais seul au presbytère, me demander de l'argent, et je réponds, je ne donne pas d'argent, mais je peux te donner à manger, ou je peux vous donner à manger. Et je n'avais presque rien, donc je lui ai donné tout ce que j'avais. Et j'étais sur la rue quand il partait, et je le vois jeter ce que je lui avais donné dans la bouche d'égout. Ça m'a forcément remué les tripes, comme on dit, parce que moi j'avais vraiment plus rien à manger ce soir-là. Et ça m'a obligé à réfléchir, effectivement. J'avais pas pris le temps de l'écouter davantage. J'ai voulu simplement être efficace en répondant à ce qui me semblait être une nécessité, mais qui n'était pas sans doute tout ce qu'il attendait, et je me suis trompé.
Autre exemple que vous vouliez prendre, alors toujours à titre personnel, hein, parce qu'après on parlera davantage de ce qu'essaye de vivre, entre autres le Secours catholique, c'est donc dans le cadre de votre responsabilité au Secours catholique, il y a des temps de rencontre avec des personnes dites en situation de précarité, où là on prend le temps normalement de les écouter un peu plus au long cours, c'est ça ?
Alors effectivement, avant le confinement, nous avions, grâce à un certain nombre d'aumôniers qui m'ont précédé et d'aumônières, des rencontres le vendredi de l'espérance, qui sont devenus les mardis de l'espérance, avec Philippe Michaud et d'autres, Jean-François Prévost.
Peu importe les noms, mais qu'est-ce qu'on essaye d'y vivre ?
Et on essaye là de partager la parole de chacun, bénévole ou accueilli, précaire.
C'est-à-dire, c'est autour d'un thème ou
assez souvent, il y a un texte de départ, qu'il soit évangélique ou pas, qui permet effectivement de confronter la manière dont on reçoit la parole et ce que ça dit à notre vie dans les situations qui sont celles de chacun et de chacune. Parfois des mots de détresse, parfois des mots d'amertume, parfois des mots de révolte, parfois des mots d'action de grâce, parce que, comme disait Marie-Ange, le miracle est là. Et donc, des choses se passent entre les uns et les autres pendant cet après-midi ou ces 2 heures d'échange.
Alors vous disiez que ce qui vous avait frappé, c'est que, en fait, il parle souvent de l'Esprit Saint. Alors moi, ça m'a beaucoup surpris aussi.
Effectivement. J'ai été aussi très surpris, parce que généralement, dans les échanges entre chrétiens, on parle assez peu de l'Esprit Saint. On parle de Jésus, on parle du Père, on parle de la Vierge Marie. L'Esprit Saint, c'est assez rare. Or, dans ses rencontres avec les précaires, c'est souvent qu'ils parlent de l'Esprit Saint, dans ce qu'ils ont reçu de lui, ce qui leur fait vivre, ce qui anime leur vie aujourd'hui.
Alors maintenant, si on essaie de réfléchir un peu plus, à, sans vouloir trop séquencer les choses, hein, à une échelle communautaire, si on prend chacun et ensemble, donc dans n'importe quel groupe, on va dire, hein, nous on parle des communautés chrétiennes, parce que on est une radio chrétienne, et puis c'est quand même Vivante Église, mais qu'est-ce que ça peut changer au long cours? Alors vous aviez un premier exemple, c'est dans une paroisse, la paroisse de Tournefeuille, où donc une personne sans domicile fixe donc, s'est tenue pendant le long mois devant la porte de l'église, et ça a secoué la communauté et plus. Racontez-nous.
Alors toujours, Aldo était là, tous les jours, toute la journée, et semaine et dimanche, il était présent dans l'entrée de l'église.
C'est-à-dire qu'il était dehors, mais il rentrait aussi dans l'église, c'est ce que vous disiez?
Ah non,
aussi,
il était assis dans le porche de l'église, à l'intérieur de l'église, et il rentrait aussi pendant les célébrations, évidemment, puisqu'il était chrétien, il partageait la célébration avec tout le monde. Et peu à peu, s'est instaurée une relation avec lui, de, pas toutes les personnes, mais certainement un bon tiers des pratiquants qui passaient à l'église parlaient avec lui, prenaient de ses nouvelles, s'inquiétaient de sa vie. Ça a créé vraiment une dynamique. Et les jours où il n'était pas là, parce qu'il était hospitalisé par exemple, les gens demandaient des nouvelles. Mais pourquoi Aldo n'est pas là? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui lui est arrivé?
Alors qu'est-ce que ça a transformé dans la communauté en fait? Parce que là, ils étaient un peu obligés de, pas forcément de l'écouter, ou au moins d'être présents à lui, c'est ça?
C'est ça. Ça a été une attention, un partage, comme vous disiez tout à l'heure, hein, une reconnaissance de l'humanité, et de son humanité, et de sa personnalité.
Mais ma question, c'est qu'est-ce que ça a changé dans la communauté?
Alors dans la communauté, ça a changé le regard sur celui qui est différent. Il y a eu cette démarche de charité et d'humanité.
Dernier exemple, le Secours catholique. Parlez-nous un peu plus du Secours catholique et du CCFD et de la place qu'on essaye de faire donc à la parole des plus pauvres. Ça fait partie maintenant du projet du Secours catholique, hein, que d'essayer au moins donc de pas faire pour, mais avec, voire à partir d'eux, en tout cas avec, et de pas être une, on va dire, une grande œuvre, une grande maison qui distribue beaucoup de choses, qui pallie à des situations d'urgence, mais qui essaye de donner la parole et de faire de la place aux plus pauvres. Racontez-nous, au sein du Secours catholique, quel est un peu le projet national sur ce sujet?
Oh oui, même le projet de délégation. Il s'agit de favoriser la rencontre. Alors certes, ça passe par la rencontre qui est faite à cause de la nécessité. Comme l'on disait, on a besoin d'eux. Vous évoquiez tout à l'heure tous les besoins alimentaires, de vêtements ou autres. Assez souvent, c'est le premier contact. Et reste que le but des bénévoles du secours, c'est en répondant aux besoins existentiels, primaires, d'aller plus loin et de développer le pouvoir d'agir pour les personnes en précarité. Comment évoluer, comment s'en sortir, comment acquérir ses droits. C'est de la même manière d'ailleurs au CCFED avec les associations partenaires. On les aide, certes financièrement, pour soutenir leurs projets, mais en même temps, c'est une manière de les aider pour qu'ils aillent plus loin dans l'évolution de leur association.
D'accord, mais ça d'autres le vivent, Jean Barba. Là, quand même, la particularité, c'est qu'on essaye de, on va dire, de les écouter et qu'ils soient aussi acteurs. J'ai retrouvé, par exemple,
voilà.
On peut trouver là, à propos du Secours catholique, regard sur la crise du Covid, le Secours catholique recueille l'expérience des plus pauvres. Est-ce que vous pouvez prendre ne serait-ce que l'exemple, par exemple, à Toulouse, où on met en responsabilité des personnes en situation de précarité?
Ah, dans toutes les actions du Secours catholique, il y a des personnes en précarité qui sont acteurs de la décision. On est en train de mettre en place ce qu'on appelle un espace de fraternité pour les femmes isolées, avec enfants ou sans enfants, dans Toulouse. Et effectivement, dans le travail préliminaire pour mettre en place ce projet, j'ai vu des personnes, des femmes en précarité qui ont participé à toute l'élaboration du projet.
Allez Sébastien, ou Frédéric-Marie Leméauté, je ne sais pas, le mot de la fin d'une certaine manière, allez, on va faire avec vous Frédéric-Marie Leméauté. Ce qu'on a pu entendre au long de ces émissions, c'est qu'on sent que c'est une grande intention, on va dire maintenant, à laquelle essaye d'être attentif l'Église, qui est donc de prendre le temps d'écouter. J'ai souvenir de Gérard Dollon lors de la précédente émission qui laissait entendre qu'il apprenait à se taire, hein, et à prendre le temps de vraiment d'écouter. Néanmoins, on entend que ce n'est pas si simple. Alors, pour finir, qu'est-ce que vous pourriez nous dire à chacun, on va dire un petit vademécum pour partir avec quelque chose dans notre besace à l'issue de ces trois émissions?
Oui, c'est sûr que c'est pas si simple, et en même temps quand j'entends Jean nous parler, eh bien il y avait simplement une personne à la porte qui a été accueillie. Donc c'est peut-être pas si simple, mais c'est peut-être pas si compliqué non plus de vivre cette attention, ce partage. Et simplement de voir comment une communauté se recompose, hein. Je reprends le témoignage de Jean. Je pense à cette phrase de l'Évangile, « Des pauvres, vous en avez toujours avec vous ». Alors on peut l'interpréter en disant « Oh là là, on en aura toujours, on va jamais solutionner le problème ». Mais prenons-le aussi comme une chance. Des SDF à la porte de nos églises, quelle église n'en a pas? Et c'est pas simplement un petit caillou dans la chaussure pour sortir avec une mauvaise conscience en nous disant « Bon, je donne pas ». Non. Cet homme qui est à la porte ou cette femme qui est à la porte, ça peut être une occasion de reconstruire la communauté.
Et elle a des choses.
Une occasion, voilà.
Et elle a des choses à dire, non? Si je devais vous pousser
et,
jusqu'au
bout. Voilà, pardon. Et elle a des choses à dire. C'est pas simplement un objet qu'il va falloir couvrir, etc. Mais c'est quelqu'un qu'on peut faire entrer dans la communauté et qui, du coup, qu'on peut écouter, qui va nous partager quelque chose et qui va nous changer profondément finalement, qui va nous faire découvrir le Christ.
Sébastien, vous vouliez prendre la main pour finir.
Moi, il me semble aussi que c'est important que cette parole elle soit une parole collective. Ce n'est pas parce qu'une personne vit la galère que forcément elle va nous révéler. Si on demande ce qu'est la Trinité à quelques personnes, à une personne qui est au fond de la rue, on va avoir quelques erreurs théologiques. Mais s'ils sont plusieurs à partager, à nous, comme le texte qu'on a écrit là. Donc l'idée, c'est de permettre aussi aux plus pauvres, c'est ce que fait le Secours catholique, hein, de se retrouver par groupe de pères, P-A-I-R-E, hein, de gens qui se ressemblent, qui vivent la même chose, pour qu'enfin ils puissent dire « Ah ben, je suis pas le seul à vivre ce que je vis », parce que la plus grande des misères, souvent, c'est de se retrouver seul, de penser qu'on est le seul à ce que nos enfants soient placés, à vivre dans la rue. Même les gens qui sont dans la rue, ils pensent que c'est les seuls à vivre l'expérience qu'ils vivent là, même s'ils ont des copains à côté, parce qu'ils n'ont pas l'occasion de discuter ensemble. Donc de permettre à ce que des gens qui vivent des galères puissent partager ensemble, c'est aussi un premier chemin de libération.
Jean-Barba, rapidement.
Je dirais que c'est la même chose que pratique le CCFD en mettant les associations partenaires en lien pour qu'elles puissent échanger entre elles.
Voilà, et puis on imagine que quand on est attentif à la parole des plus pauvres, soit à la sortie de l'église, soit même à l'autre bout du monde, eh ben on a des bonnes solutions pour essayer de transformer, on va dire, toutes les réalités, nos communautés, les plus petites jusqu'à la plus grande, qui est donc cette maison commune, comme le dit le pape François. Un grand merci à vous pour cette série d'émissions, on espère qui nous a fait cheminer. Un grand merci. À la technique, Christophe Aubry, vous pouvez écouter cette émission ce soir à 21h. Vous la retrouvez en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00. 05 62 48 63 00. Ou par mail à contact@radioprésence.com.